La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'égyptologue Florence Quentin pour un essai publié aux éditions Perrin, l'Égypte ancienne, vérités et légendes. Bonjour.
Bonjour.
Alors Florence Quentin, votre ouvrage est publié dans une collection qui permet de répondre aux questions qu'on se pose. Cela permet aussi de déconstruire certaines légendes autour d'un sujet donné. Et en ce qui concerne l'Égypte ancienne, il était nécessaire de démêler le vrai du faux. Les pharaons, les dieux égyptiens frappent tellement l'imaginaire de nos contemporains que certains préjugés continuent à se transmettre malgré les démentis des scientifiques.
Oui, tout à fait, parce qu'en dépit de l'avancée de nos connaissances sur l'Égypte ancienne, et puis de nos démentis scientifiques, parce qu'on a de plus en plus de théories farfelues ou complotistes, eh bien les imaginaires ne faiblissent pas. Ils prendront avec autant de force que les savoirs, et c'est une fascination qui est ancienne, qui remonte à l'Antiquité, au récit des Grecs, une fascination qui se réinvente à travers le temps, et visiblement elle n'est pas près de faiblir, comme en témoigne l'extraordinaire fréquentation des expositions sur les pharaons, les voyages dans la vallée du Nil, ou l'engouement du public pour les documentaires sur le sujet. Et mon livre s'attache donc à répondre aux questions les plus fréquentes entre les vérités et les légendes, pardon. Et puis aussi, je voulais rectifier certaines idées reçues et aussi rendre hommage au génie des Égyptiens en débusquant quelques sujets qui étaient moins connus sur cette civilisation.
Alors, vous répondez à une question que beaucoup se posent, Florence Quentin. Comment ont été construites les pyramides qui nous impressionnent tant par leur perfection? Vous évoquez notamment l'utilisation de rampes pour monter les blocs de pierre.
Alors déjà, précisons que ces monuments ont été construits entre 2650 et 1500 avant notre ère, donc c'est assez un temps assez long. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on transportait les blocs de pierre par voie terrestre, des carrières au chantier avec un allié de taille qui était le Nil. Et puis ensuite, on déterminait le nord pour orienter avec la plus grande précision possible les quatre faces de la pyramide par rapport aux points cardinaux. On dessinait le contour de la pyramide et puis il y avait ensuite des équipes, des chantiers de 20 000 à 30 000 hommes, plus ou moins spécialisés et qui montaient justement ces blocs grâce au limon pour les faire glisser sur des traîneaux de bois et donc sur des pentes. Et effectivement, on a fait une découverte fondamentale ces dernières années donc pour la compréhension de la construction de ces pyramides titanesques. C'est une équipe de l'IFAO, c'est-à-dire l'Institut français d'archéologie orientale, l'école française d'Iker, qui, sous la direction de Yanis Gourdon, dans le site de Hatnoub, c'est une carrière d'albâtre qui est exploitée dès le troisième millénaire, à peu près à 330 km du Caire. Et on a découvert un système de halage qui facilitait le déplacement de très gros blocs de pierre hors de cette carrière. Et on pensait jusque-là que les Égyptiens ne maîtrisaient pas les pentes très inclinées. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on pensait à des pentes qui ne dépassaient pas 7%. Et on sait aujourd'hui, grâce à cette découverte de Hatnoub, qu'ils pouvaient tirer des blocs beaucoup plus lourds sur des pentes beaucoup plus raides, entre 18,5% et 22%. Ce qui peut nous expliquer en partie comment ces blocs ont pu être allés tirés sur des traîneaux qui étaient donc humidifiés par du limon sur ces pentes soit frontales, soit latérales pour construire ces pyramides.
Et si on est fasciné par la perfection des pyramides que tout le monde connaît, dans ce livre, vous rappelez que certaines pyramides ont été ratées.
Oui, parce qu'on croit toujours que les pyramides de Gizeh, Khéops, Khéphren et Mykérinos, Khéops, la dernière des sept merveilles du monde antique qui est encore visible aujourd'hui, a jailli parfaitement, on va dire, de la technicité des Égyptiens. Maintenant, avant que cette pyramide sorte des sables de manière, on va dire, quasi parfaite, il y a eu une évolution dans cette architecture monumentale, et il faut le redire, on a eu d'autres essais, parfois infructueux, notamment les pyramides qui ont été édifiées sous le règne du roi Snéfrou vers 2670 avant notre ère. Il a tenté effectivement de bâtir cette forme purement géométrique et lui seul a fait édifier trois pyramides, l'une à Meidoum, l'une dite rhomboïdale, c'est-à-dire en forme de parallépipède, et à Dachour Sud, une tentative avortée de face lisse, et enfin la pyramide nord de Dachour, pyramide rouge, qui est cette fois à face lisse. Donc il a fallu plusieurs essais infructueux, des erreurs, pour arriver enfin à cette construction parfaite qui est devenue l'une des figures iconiques de l'Égypte ancienne.
Alors votre essai est remarquable et extrêmement riche, on ne peut pas aborder tous les sujets, Florence Quentin. Ce qui m'a intéressé notamment, c'est la langue parlée par les Égyptiens.
Alors il faut rappeler aussi que l'Égypte, c'est la langue parmi toutes celles connues qui a l'histoire la plus longue. Hein, elle débute à la fin du vers 3200 avant notre ère. Et puis cet usage de l'égyptien pharaonique va perdurer jusqu'au 4e siècle de notre ère, puisqu'on trouve la dernière inscription hiéroglyphique au temple de Philae, donc au sud d'Assouan, à cette époque, vers le 4e siècle, au 4e siècle de notre ère. Et puis la christianisation de l'Égypte va constituer une sorte de point de basculement. On va abandonner cette tradition littéraire, cette culture païenne, et on va remplacer les hiéroglyphes par une variante cursive qu'on appelle le démotique. Hein, c'est une des variantes que l'on trouve sur la pierre de Rosette, par exemple. Et le stade le plus récent de l'égyptien, à partir du 3e siècle, c'est le copte, qui va devenir la langue quotidienne des habitants d'Égypte jusqu'au 14e siècle. On peut dire que, du point de vue de la génétique, hein, l'égyptien, c'est une langue afro-asiatique ou camito-sémitique qui comprend, entre autres familles, donc le sémitique, le berbère, le couchitique, etc., et l'égyptien lui-même.
Alors Florence Quentin, la langue liturgique utilisée par les Coptes est celle qui se rapproche le plus de la langue égyptienne ancienne ?
Oui, tout à fait, parce qu'elle apparaît vers le 3e siècle, alors que la civilisation égyptienne est en train de s'effacer, et le copte s'écrit dans un alphabet grec auquel on a ajouté 8 lettres de l'écriture hiéroglyphique pour noter des sons qui sont inconnus en grec. Donc ce christianisme copte a permis de figer la langue copte et de la conserver dans les textes, et surtout, effectivement, dans la liturgie, dans le culte, jusqu'à l'arrivée des Arabes en 641, et c'est encore une langue qui se parle dans les églises coptes.
Florence Quentin, votre livre fourmille d'informations sur tous les sujets, c'est extrêmement riche, et vous parlez notamment de la place des femmes en Égypte. Quel était le statut des femmes dans l'Égypte ancienne ?
Alors j'aime rappeler, parce que comme vous le savez, j'ai écrit un livre sur les grandes souveraines d'Égypte, que les Égyptiennes ont joui d'un respect assez rare dans le monde antique pour être souligné. Elles ont, on le sait, grâce à des textes juridiques, bénéficié d'une capacité juridique qui les dispensait de toute tutelle ou curatelle. Et elles pouvaient aussi accéder à de nombreux postes de la société. On connaît des femmes qui ont été médecins, déjà à l'Ancien Empire, hein, au 3e millénaire, médecins, juges, gardes des sceaux. Et puis aussi, c'est une civilisation qui a donné la parole et le pouvoir à des reines pharaons qui ont régné de plein droit. Et les femmes étaient estimées au palais comme dans le peuple. Et elles ont eu une influence certaine dans cette société égyptienne. Mais encore une fois, on ne peut pas réécrire l'histoire égyptienne à partir du présent selon un prisme féministe. Et c'est tout de même une société où les hommes dominaient, une société patriarcale. Mais il faut rappeler, encore une fois, qu'elles ont bénéficié de droits bien plus larges que dans d'autres civilisations.
Et la place des femmes dans la Grèce antique s'est-elle améliorée en raison de l'influence de l'Égypte ?
Alors tout dépend ce qu'on appelle Grèce antique, du moins à l'époque, parce que je rappelle souvent que la Grèce, qui a inventé la démocratie, hein, au 5e siècle avant notre ère, a toujours considéré Enfin, en tout cas à cette époque-là, au siècle dit de Périclès, les femmes, comme le deuxième sexe, comme d'éternelles mineures, qui passaient de la tutelle du père à celle de l'époux, elles n'avaient pas de droit. Et cette évolution favorable de la condition féminine, elle s'est plutôt faite dans le droit grec, à l'époque hellénistique, grâce à l'influence du droit romain, mais encore une fois, l'époque hellénistique, elle débute à partir de la mort d'Alexandre vers 323 jusqu'à la défaite de Cléopâtre VII à Actium en 31 avant Jésus-Christ. Donc c'est assez tardif.
Alors c'est une question qui est souvent posée, Florence Quentin. Quelles sont les traces dans la Bible de la civilisation égyptienne? L'Égypte est très présente dans l'Ancien Testament, ne serait-ce qu'à travers la sortie d'Égypte de Moïse.
Oui, cette Égypte est omniprésente dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Elle fait tout le temps retour et dans les textes prophétiques, dans les textes poétiques, et dans l'Exode, etc. Mais il y a une vision très ambivalente qui ressort de cette Bible hébraïque. Il y a à la fois une hostilité et une admiration, une image positive et une image négative. C'est à la fois l'histoire de Joseph, donc une terre d'accueil pour Joseph, une terre qui sait accueillir l'étranger. Elle nous montre que des relations sont possibles entre l'Égypte et les descendants du patriarche Jacob sous le signe de la concorde. Et puis, il y a une autre vision qui est égyptophobe, c'est celle de la terre d'esclavage qui ouvre le récit fondateur de la Bible, c'est celui de l'Exode. Et c'est une image repoussoir et sur la base de laquelle la Bible a été rédigée. Et ça va beaucoup influencer l'image qu'on a de l'Égypte, d'un autocrate, de l'esclavage, etc. Et on sait que ce grand récit mythique de la Bible hébraïque, l'Exode, s'est bâti autour de cet événement fondateur qui est la sortie d'Égypte. Donc il y a deux visions ambivalentes qui traversent la Bible, une Égypte terre d'accueil et une Égypte terre de souffrance pour les Hébreux. L'Égypte et Israël sont perçus comme des mondes opposés, le premier c'est la vérité, le second le mensonge. En réalité, on n'a pas tellement de traces de l'Exode dans l'archéologie égyptienne. On sait que à partir du 15e siècle avant notre ère, il y avait des tribus nomades proche-orientales qui sont venues comme travailleurs émigrés ou comme prisonniers de guerre. On parle des apirous qui auraient donné le mot hébreu et on situe l'Exode entre le 13e et le 11e siècle avant notre ère. Mais cet exode n'a concerné que quelques familles et sans doute, on peut le lire tout à fait historiquement dans l'autre sens, ces familles ont été expulsées par les Égyptiens, expulsées hors de l'Égypte. Donc la cause n'est pas un conflit entre le roi d'Égypte et puis les Hébreux, on n'a pas gardé trace historiquement de cet exode, du moins dans ces termes-là.
Alors, vous publiez l'Égypte ancienne, vérités et légendes chez Perrin, livre absolument passionnant, avec ce sujet abordé dans l'un des chapitres, l'art pictural égyptien, avec cette façon unique de représenter les corps et les visages, qu'est-ce qui est dessiné de face, de profil. Vous montrez que le système de représentation est finalement plus complexe qu'on ne l'imagine.
Oui, parce qu'on a toujours l'impression que l'art égyptien, c'est un art naïf, qui évoque les dessins d'enfants, ça peut prêter à sourire, parce que l'œil et la poitrine sont de face, le nez, les hanches, les jambes sont de profil. En tout cas, ça signe l'égyptianité de l'iconographie. On voit tout de suite, on reconnaît tout de suite une œuvre d'art égyptienne aussi par cette représentation. Mais en réalité, les Égyptiens ont voulu représenter un objet dans tous ses aspects, c'est-à-dire le plus immédiatement identifiable, ce qu'on appelle l'aspective, c'est un néologisme qui s'oppose à la perspective, parce que nous sommes éduqués, nous, à l'idée de la perspective et à regarder de manière perspective. Les Égyptiens, ils représentent en quelque sorte en miroir la perspective, ils l'ignorent. Ce point de vue de la perspective est une approche occidentale, c'est-à-dire elle correspond à la position du spectateur de l'image, alors que pour les Égyptiens, on va montrer dans un même tableau, parfois en superposant les registres, tous, par exemple, si un meuble contient un objet, on va montrer l'objet presque en lévitation au-dessus du meuble. On veut tout montrer. Et puis lorsque les mains d'un personnage sont ouvertes, elles sont toutes deux tournées, le pouce vers l'avant ou le pouce vers l'arrière, avec la même face rabattue, pour que l'on voit bien ses mains, En réalité, on a l'impression que la personne a deux mains, et en réalité, enfin, deux mains gauches, par exemple, ou deux mains droites, en réalité, le personnage est figuré les mains à plat sur les cuisses en attitude de prière. On n'a pas les deux mêmes mains, mais c'est une manière de représenter l'attitude de la prière. C'est tout à fait spécifique à l'art égyptien. C'est un monde très très différent du nôtre. On veut montrer aussi donc tous ces aspects sur une surface réduite, de manière quasi exhaustive. Et puis aussi, on a tenté, et je trouve ça passionnant, de représenter des éléments abstraits comme le son ou le parfum, parce qu'on veut tenir ensemble tous les aspects du monde visible et puis aussi invisible.
Alors, dans ce livre, Florence Quentin, vous vous interrogez aussi sur la naissance du monothéisme. Le pharaon Akhenaton est-il le premier monothéiste de l'histoire ?
Alors, ce terme monothéiste est un peu difficile à appliquer. On le lit régulièrement par rapport appliqué à Akhenaton, mais je trouve qu'il échoue à définir ce concept égyptien, parce que Aton, donc ce disque solaire qui a été mis en valeur à l'exclusion finalement des autres dieux par ce pharaon Akhenaton, il est qualifié certes de dieu unique, mais cette unicité du divin, elle remonte aux origines de l'Égypte, parce que dans tous les récits cosmogoniques, les Égyptiens nous disent qu'il y avait le un qui s'est fait multiple, qui s'est fait million. Les Égyptiens avaient conscience qu'il y avait une unité du divin qui s'était manifesté à travers donc d'autres divinités, dieux et déesses. Alors il n'a pas réellement inventé le monothéisme, mais il a concentré à travers sa personne, à travers l'exaltation du pouvoir royal, cette notion de dieu unique. Et en réalité, ce n'est pas le disque solaire qu'il adore, c'est la manifestation qui se situe derrière cette forme visible. C'est une énergie, un rayonnement, c'est quelque chose d'assez abstrait qui a dû d'ailleurs beaucoup déstabiliser les Égyptiens, parce qu'ils disaient c'est le père et la mère de l'humanité. Mais contrairement au monothéisme des religions du livre, il n'y a pas de loi morale, il n'y a pas d'alliance entre Dieu et son peuple, ni de lien personnel. Ce Dieu Aton, pour arriver à le contacter, à le prier, il faut absolument passer par Akhenaton. Vous voyez, il concentre en lui tous ses pouvoirs. C'est le seul prophète qui est en lien direct avec le disque solaire. On est très loin des monothéismes, donc des religions du livre. Et c'est aussi une religion qui a une dominante, qu'on peut appeler cosmothéiste, c'est-à-dire qu'elle repose sur la vénération d'une puissance cosmique. Hein. C'est ce disque solaire qui donne la vie aux humains, à la nature, donc qui est générateur de toute vie.
Florence Quentin, malheureusement, le temps passe très vite. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. On aurait pu parler notamment du chat égyptien. On aurait pu parler aussi de l'alchimie. Florence Quentin, merci d'avoir été l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient. Je rappelle les titres de vos deux livres. L'Égypte ancienne, vérités et légendes aux éditions Perrin. Et puis, comprendre les symboles et les divinités de l'Égypte ancienne chez Ozoni. Merci.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.